Chapitre 3. La soirée du 24 août 1572, le Louvre en particulier et la vertu en général. Notre lecteur n'a pas oublié que dans le chapitre précédent, il a été question d'un gentilhomme nommé La Mole, attendu avec quelque impatience par Henri de Navarre. Ce jeune gentilhomme, comme l'avait annoncé l'amiral, entrait à Paris par la porte Saint-Marcel vers la fin de la journée du 24 août 1572, et jetant un regard assez dédaigneux sur les nombreuses hôtelleries qui étalaient à sa droite et à sa gauche leurs pittoresques enseignes, laissa pénétrer son cheval tout fumant jusqu'au cœur de la ville, où, après avoir traversé la place Maubert, le petit pont, le pont Notre-Dame et longé les quais, il s'arrêta au bout de la rue de Bressec, dont nous avons fait depuis la rue de l'Arbre sec, et à laquelle, pour la plus grande facilité de nos lecteurs, nous conserverons son nom moderne. Le nom lui plut sans doute car il y entra, et comme à sa gauche une magnifique plaque de tôle grinçant sur sa tringle avec accompagnement de sonnettes appelait son attention, il fit une seconde halte pour lire ces mots « À la belle étoile », écrit en légende sous une peinture qui représentait le simulacre le plus flatteur pour un voyageur affamé. C'était une volaille rôtissant au milieu d'un ciel noir, tandis qu'un homme à manteau rouge tendait vers cet astre d'une nouvelle espèce ses bras, sa bourse et ses vœux. « Voilà, se dit le gentilhomme, une auberge qui s'annonce bien, et l'hôte qui la tient doit être sur mon âme un ingénieux compère. J'ai toujours entendu dire que la rue de l'Arbre sec était dans le quartier du Louvre, et pour peu que l'établissement réponde à l'enseigne, je serai à merveille ici. » Pendant que le nouveau venu se débitait à lui-même ce monologue, un autre cavalier, entré par l'autre bout de la rue, c'est-à-dire par la rue Saint-Honoré, s'arrêtait et demeurait aussi en extase devant l'enseigne de la Belle Étoile. Celui des deux que nous connaissons, de nom du moins, montait un cheval blanc de race espagnole et était vêtu d'un pourpoint noir garni de jais. Son manteau était de velours violet foncé, il portait des bottes de cuir noir, une épée à poignée de fer ciselé et un poignard pareil. Maintenant, si nous passons de son costume à son visage, nous disons que c'était un homme de 24 à 25 ans, au teint basané, aux yeux bleus, à la fine moustache, aux dents éclatantes, qui semblait éclairer sa figure lorsque s'ouvrait, pour sourire, un sourire doux et mélancolique d'une bouche d'une forme exquise et de la plus parfaite distinction. Quant au second voyageur, il formait avec le premier venu un contraste complet. Sous son chapeau, à bord retroussé, apparaissaient, riches et crépus, des cheveux plutôt roux que blonds. Sous ses cheveux, un œil gris brillait à la moindre contrariété d'un feu si resplendissant qu'on eût dit alors un œil noir. Le reste du visage se composait d'un teint rosé, d'une lèvre mince, surmontée d'une moustache fauve et de dents admirables. C'était en somme avec sa peau blanche, sa haute taille et ses larges épaules, un fort beau cavalier, dans l'acception ordinaire du mot, et depuis une heure qu'il levait le nez vers toutes les fenêtres, sous le prétexte d'y chercher des enseignes, les femmes l'avaient fort regardé. Quant aux hommes qui avaient peut-être éprouvé quelque envie de rire en voyant son manteau étriqué, ses chausses collantes et ses bottes d'une forme antique, ils avaient achevé ce rire commencé par un « Dieu vous garde » des plus gracieux à l'examen de cette physionomie qui prenait en une minute 10 expressions différentes, sans toutefois l'expression bienveillante qui caractérise toujours la figure du provincial embarrassé. Ce fut lui qui s'adressa le premier à l'autre gentilhomme qui, ainsi que nous l'avons dit, regardait l'hôtellerie de la Belle Étoile. « Mordi, monsieur, dit-il avec cet horrible accent de la montagne qui ferait au premier mot reconnaître un piémontais entre 100 étrangers. Ne sommes-nous pas ici près du Louvre? En tout cas, je crois que vous avez eu même goût que moi, c'est flatteur pour ma seigneurie. » « Monsieur, répondit l'autre avec un accent provençal qui ne le cédait en rien à l'accent piémontais de son compagnon, je crois en effet que cette hôtellerie est plus proche du Louvre. Cependant, je me demande encore si j'aurai l'honneur d'avoir été de votre avis. Je me consulte. » « Vous n'êtes pas décidé, monsieur, la maison est flatteuse pour autant. Après cela, peut-être me suis-je laissé tenter par votre présence. Avouez néanmoins que voilà une jolie peinture. » « Ah, vous achevez de me décider, dit le Provençal en riant. Montrez-moi donc le chemin, monsieur, je vous prie. »« Oh, monsieur, sur mon âme, je n'en ferai rien, car je ne suis que votre humble serviteur, le comte Hannibal de Coconas. » Et moi, monsieur, je ne suis que le comte Joseph Jacinthe Boniface de Lérac de la Mole, tout à votre service. En ce cas, monsieur, prenons-nous par le bras et entrons ensemble. » Le résultat de cette proposition conciliatrice fut que les deux jeunes gens qui descendirent de leurs chevaux et jetèrent la bride aux mains d'un palefrenier, se prirent par le bras et, ajustant leurs épées, se dirigèrent vers la porte de l'hôtellerie, sur le seuil de laquelle se tenait l'hôte. Mais contre l'habitude de ces sortes de gens, le digne propriétaire n'avait paru faire aucune attention à eux, occupé qu'il était de conférer très attentivement avec un grand gaillard sec et jaune, enfoui dans un manteau couleur d'amadou, comme un hibou sous ses plumes. Les deux gentilshommes étaient arrivés si près de l'hôte et de l'homme au manteau amadou avec lequel ils causaient que Coconas, impatienté de ce peu d'importance qu'on accordait à lui et à son compagnon, tira la manche de l'hôte. Celui-ci parut alors se réveiller en sursaut et congéda son interlocuteur d'un « Au revoir, venez tantôt et surtout tenez-moi au courant de l'heure. »« Eh, monsieur le drôle, dit Coconas, ne voyez-vous pas qu'on a affaire à vous ?»« Ah, pardon, monsieur, dit l'hôte, je ne vous voyais pas. »« Eh, mordi, il fallait nous voir !» Et maintenant que vous nous avez vus, au lieu de dire « monsieur tout court », dites « monsieur le comte, s'il vous plaît ». La Mole se tenait derrière, laissant parler Coconas, qui paraissait avoir pris l'affaire à son compte. Cependant, il était facile de voir à ses sourcils froncés qu'il était prêt à lui venir en aide quand le moment d'agir serait arrivé. « Eh bien, que désirez-vous, monsieur le comte ?» demanda l'hôte d'un ton plus calme. « Mais c'est déjà mieux, n'est-ce pas ?» dit Coconas en se retournant vers la Mole qui fit de la tête un signe affirmatif. « Nous désirons, monsieur le comte et moi, attirés que nous sommes par votre enseigne, trouver à souper et à coucher dans votre hôtellerie. »« Ah, messieurs, dit l'autre, je suis au désespoir, mais il n'y a qu'une chambre et je crains que cela ne puisse vous convenir. »« Eh bien, ma foi, tant mieux, dit la Mole, nous irons loger ailleurs. » « Ah, mais non, dit Coconas, je demeure, moi, mon cheval est harassé, je prends donc la chambre, puisque vous n'en voulez pas. »« Ah, c'est autre chose, répondit l'hôte en conservant toujours le même flegme impertinent. Si vous n'êtes qu'un, je ne puis pas vous loger du tout. »« Mordi, s'écria Coconas, voici pour ma foi un plaisant animal. Tout à l'heure nous étions trop de deux, maintenant nous ne sommes pas assez d'un. Tu ne veux donc pas nous loger, drôle ?» Ah, « Mes foi, messieurs, puisque vous le prenez sur ce ton, je vous répondrai avec franchise. Réponds alors, mais réponds vite. »« Eh bien, j'aime mieux ne pas avoir l'honneur de vous loger. »« Parce que ?» demanda Coconas, blêmissant de colère. « Parce que vous n'avez pas de laquais et que pour une chambre de maître pleine, cela me ferait deux chambres de laquais vides. Or, si je vous donne la chambre de maître, je risque fort de ne pas louer les autres. » « Monsieur de la Mole, dit Coconas en se retournant, ne vous semble-t-il pas, comme à moi, que nous allons massacrer ce gaillard-là ? Mais c'est faisable, dit la Mole en se préparant, comme son compagnon, à rouer l'hôtelier de coups de fouet. Mais malgré cette double démonstration, qui n'avait rien de bien rassurant de la part de deux gentilshommes qui paraissaient si déterminés, l'hôtelier ne s'étonna point et se contentant de reculer d'un pas afin d'être chez lui, « On voit, dit-il en goguenardant, que ces messieurs arrivent de province. À Paris, la mode est passée de massacrer les aubergistes qui refusent de louer leurs chambres. Ce sont les grands seigneurs qu'on massacre, non les bourgeois, et si vous criez trop fort, je vais appeler mes voisins, de sorte que ce sera vous qui serez roués de coups, traitement tout à fait indigne de deux gentilshommes. » « Mais ils se moquent de nous ?» s'écria Coconas, exaspéré. « Mordi !» « Grégoire, mon arquebuse, dit l'hôte en s'adressant à son valet du même ton qu'il lui dit, un siège à ces messieurs. « Trippé del papa !» hurla Coconas en tirant son épée. « Mais échauffez-vous donc, monsieur de la Mole !»« Non pas, s'il vous plaît, non pas, car tandis que nous nous échaufferons, le souper refroidira, lui. » « Comment vous trouvez ?» s'écria Coconas. « Je trouve que monsieur de la Belle Étoile a raison. Seulement, il sait mal prendre ses voyageurs, surtout quand ces voyageurs sont des gentilshommes. » Au lieu de dire brutalement « Messieurs, je ne veux pas de vous », il aurait mieux fait de nous dire avec politesse « Entrez, messieurs, quitte à mettre sur son mémoire « chambre de maître tant, chambre de laquais tant, attendu que si nous n'avons pas de laquais, nous comptons en prendre. » Et se disant, la Mole écarta doucement l'hôtelier, qui tendait déjà la main vers son arquebuse, fit passer Coconas et entra derrière lui dans la maison. « N'importe, dit Coconas, j'ai bien de la peine à remettre mon épée dans le fourreau avant de m'être assuré qu'elle pique aussi bien que les lardoires de ce gaillard-là. » Patience, mon cher compagnon, dit la Mole, patience. Toutes les auberges sont pleines de gentilshommes attirés à Paris pour les fêtes du mariage ou pour la guerre prochaine de Flandre, et nous ne trouverions plus d'autres logis. Et puis, c'est peut-être la coutume à Paris de recevoir ainsi les étrangers qui y arrivent. « Mordi, comme vous êtes patient !» murmura Coconas, en tortillant de rage sa moustache rouge et en foudroyant l'hôte de ses regards. « Mais que le coquin prenne garde à lui, si sa cuisine est mauvaise, si son lit est dur et si son vin n'a pas 3 ans de bouteille, si son valet n'est pas souple comme un jonc. Là, 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 mon gentilhomme, fit l'hôte en aiguisant sur un repassoir le couteau de sa ceinture. Là, tranquillisez-vous, vous êtes en pays de cocagne. » Puis, tout à coup, et en secouant la tête, « C'est quelque huguenot, murmura-t-il, les traîtres sont si insolents depuis le mariage de leur Béarnais avec mademoiselle Margot. » Puis, avec un sourire qui eût fait frissonner ses hôtes s'il l'avait vu, il ajouta, « Eh, ce serait drôle qu'il me fût justement tombé des huguenots ici, et que... » « Eh, ça, souperons-nous ? » demanda aigrement Coconas, interrompant les apartés de son hôte. « Mais comme il vous plaira, monsieur, répondit celui-ci, radouci sans doute par la dernière pensée qui lui était venue. « Eh bien, il nous plaît, promptement, répondit Coconas. Puis, se tournant vers la Mole, « Dites-moi, comte, vous cherchez le Louvre, n'est-ce pas ? Et vous aussi, je crois, monsieur de Coconas. Eh bien, si vous voulez, nous le chercherons ensemble. Hein, fit la Mole, n'est-il pas un peu tard pour sortir ? Tard ou non, il faut que je sorte. Mes ordres sont précis. Arriver au plus vite à Paris et aussitôt arriver, communiquer avec le duc de Guise. » À ce nom de duc de Guise, l'hôte s'approcha fort attentif. « Il me semble que ce maraud nous écoute, » dit Coconas, qui, en sa qualité de piémontais, était fort rancunier et qui ne pouvait passer au maître de la Belle Étoile la façon peu civile dont il recevait les voyageurs. « Oui, messieurs, je vous écoute, » dit celui-ci en mettant la main à son bonnet, « mais pour vous servir, j'entends parler du grand duc de Guise et j'accours. À quoi puis-je vous être bon, mes gentilshommes ?»« Ah, ce mot est magique à ce qu'il paraît, car d'insolent, le voilà devenu obséquieux, mordi, maître, maître, comment t'appelles-tu »« Maître la Hurière, » répondit l'hôte s'inclinant. « Eh bien, maître la Hurière, crois-tu que mon bras soit moins lourd que celui de monsieur le duc de Guise, qui a le privilège de te rendre si poli ?»« Non, monsieur le comte, mais il est moins long, » répliqua la Hurière. « D'ailleurs, ajouta-t-il, il faut vous dire que ce grand Henri est notre idole à nous autres Parisiens. »« Quel Henri ?» demanda la Mole. « Il me semble qu'il n'y en a qu'un, » dit l'aubergiste. « Pardon, mon ami, il y en a encore un autre dont je vous invite à ne pas dire de mal, c'est Henri de Navarre, sans compter Henri de Condé, qui a bien aussi du mérite. »« Cela, je ne les connais pas, » répondit l'autre. « Oui, mais moi je les connais, » dit la Mole, « et comme je suis adressé au roi de Navarre, je vous invite à n'en pas médire devant moi. » L'hôte, sans répondre à monsieur de la Mole, se contenta de toucher légèrement à son bonnet et, continuant de faire les yeux doux à Coconas, « Ainsi, monsieur va parler au grand duc de Guise, monsieur est un gentilhomme bien heureux, et sans doute qu'il vient pour... »« Pourquoi ?» demanda Coconas. « Pour la fête, » répondit l'hôte avec un singulier sourire. « Vous devriez dire pour les fêtes, car Paris en regorge de fêtes, à ce que j'ai entendu dire. Du moins, on ne parle que de balles, de festins, de carousels. Ne s'amuse-t-on donc pas beaucoup à Paris ?»« Mais modérément, monsieur, jusqu'à présent du moins, » répondit l'autre. « Mais on va s'amuser, je l'espère. » « Ah, les noces de Sa Majesté, le roi de Navarre, attirent cependant beaucoup de monde en cette ville, » dit la Mole. « Beaucoup de huguenots, oui, monsieur, » répondit brusquement la Hurière, puis se redressant. « Ah, pardon, » dit-il, « ces messieurs sont peut-être de la religion. »« Moi, de la religion ?» s'écria Coconas. « Allons donc, je suis catholique comme notre Saint-Père le Pape. » La Hurière se retourna vers la Mole comme pour l'interroger, mais où la Mole ne comprit pas son regard, où il ne jugea point à propos d'y répondre autrement que par une autre question. « Si vous ne connaissez point Sa Majesté le roi de Navarre, maître la Hurière, dit-il, peut-être connaissez-vous monsieur l'amiral. J'ai entendu dire que monsieur l'amiral jouissait de quelques faveurs à la cour, et comme je lui étais recommandé, je désirerais, si son adresse ne vous écorche pas la bouche, savoir où il loge. » « Il logeait rue de Béthisy, monsieur, ici à droite, » répondit l'hôte avec une satisfaction intérieure qui ne put s'empêcher de devenir extérieure. « Comment il logeait demanda la Maud. Il est donc déménagé?
Oui, de ce monde, peut-être.
Qu'est-ce à dire? S'écrièrent ensemble les deux gentilshommes. L'amiral déménagé de ce monde?
Oui, monsieur de Coconas, poursuivit l'hôte avec un malin sourire. Vous êtes de ceux de Guise et vous ignorez cela?
Quoi, cela? Qu'avant-hier, en passant sur la place Saint-Germain-l'Auxerrois, devant la maison du chanoine Pierre Pilès, l'amiral a reçu un coup d'arquebuse.
Et il est tué? S'écria la Maule.
Non, le coup lui a seulement cassé le bras et coupé deux doigts, mais on espère que les balles étaient empoisonnées.
Comment? Misérable! S'écria la Maule. On espère?
Je veux dire qu'on croit, reprit l'hôte. Ne nous fâchons pas pour un mot, la langue m'a fourché. Et maître Lahurière, tournant le dos à la Maule, tira la langue à Coconas de la façon la plus goguenarde, accompagnant ce geste d'un coup d'œil d'intelligence.
En vérité, dit Coconas rayonnant.
En vérité, murmura la Maule avec une stupéfaction douloureuse.
« Et c'est comme j'ai l'honneur de vous le dire, messieurs, » répondit l'hôte.
« En ce cas, dit la Maule, je vais au Louvre sans perdre un moment. Y trouverai-je le roi Henri ?»«
Ben, c'est possible, puisqu'il y loge. »«
Et moi aussi je vais au Louvre, » dit Coconas. « Y trouverai-je le duc de Guise ?»«
C'est probable, car je viens de le voir passer il n'y a qu'un instant avec 200 gentilshommes. »
« Alors venez, monsieur de Coconas, dit la Maule. « Je vous suis, monsieur, dit Coconas.
« Mais votre souper, mes gentilshommes, demanda maître Lahurière.
« Ah, dit la Maule, je souperai peut-être chez le roi de Navarre.
« Et moi chez le duc de Guise, dit Coconas.
« Et moi, dit l'hôte, après avoir suivi des yeux les deux gentilshommes qui prenaient le chemin du Louvre, moi je vais fourbir ma salade, emmêcher mon arquebuse et affiler ma pertuisane. On ne sait jamais ce qui peut arriver. »
Les deux gentilshommes, renseignés par la première personne qu'ils rencontrèrent, prirent le chemin d'Aversion, la rue Saint-Germain-d'Auxerrois, et se trouvèrent bientôt devant le Louvre, dont les tours commençaient à se confondre dans les premières ombres du soir.
« Qu'avez-vous donc ?» demanda Coconas à la Maule, qui, arrêtée à la vue du vieux château, regardait avec un saint respect ses ponts-levis, ses fenêtres étroites et ses clochetons aigus qui se présentaient tout à coup à ses yeux.
« Ma foi, je n'en sais rien, dit la Maule, le cœur me bat. Je ne suis cependant pas timide outre mesure, mais je ne sais pourquoi ce palais me semble sombre et, dirais-je, terrible.
Eh bien moi, dit Coconas, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je suis d'une allégresse rare. La tenue est pourtant quelque peu négligée, continua-t-il en parcourant des yeux son costume de voyage, mais, bah, on a l'air cavalier.
Oui, mes ordres me recommandaient la promptitude, je serai donc le bienvenu, puisque j'aurai ponctuellement obéi. »
Et les deux jeunes gens continuèrent leur chemin, agités chacun des sentiments qu'ils avaient exprimés. Il y avait bonne garde au Louvre, tous les postes semblaient doublés, nos deux voyageurs furent donc d'abord assez embarrassés. Mais Coconas, qui avait remarqué que le nom du duc de Guise était une espèce de talisman auprès des Parisiens, s'approcha d'une sentinelle et se réclamant de ce nom tout-puissant, demanda si, grâce à lui, il ne pourrait point pénétrer dans le Louvre. Ce nom paraissait faire sur le soldat son effet ordinaire, cependant il demanda à Coconas s'il n'avait point le mot d'ordre. Coconas fut forcé d'avouer qu'il ne l'avait pas.
« Alors au large, mon gentilhomme, » dit le soldat.
À ce moment, un homme qui causait avec l'officier du poste et qui, tout en causant, avait entendu Coconas réclamer son admission au Louvre, interrompit l'entretien et venant à lui, «
Quoi, fouloir fou, un missire d'Aiguise, » dit-il.
Moi, vouloir lui parler, répondit Coconas en souriant.
Imposible, le duc, il aide, j'ai le roi.
Cependant, j'ai une lettre d'avis pour me rendre à Paris.
Ah, Foussafre, une lettre ta fille.
Oui, et j'arrive de fort loin.
Ah, Foussarife, de fort loin.
J'arrive du Piémont.
Ah, pien, pien, c'est autre chose.
Et Foufous appelé, le comte Hannibal de Coconas.
Pon, pon, tonnez la lettre, monsieur Hannibal, tonnez.
« Voici, sur ma parole, un bien galant homme, » dit la Maule, se parlant à lui-même.
« Ne pourrais-je point trouver de pareil pour me conduire chez le roi de Navarre ?»«
Mais tenez donc la lettre, » continua le gentilhomme allemand en étendant la main vers Coconas qui hésitait.
« Mordi, » reprit le piémontais, défiant comme un demi-italien, « je ne sais si je dois, je n'ai pas l'honneur de vous connaître, moi, monsieur.
« Je suis Pesme, j'appartiens à monsieur le duc de Guise. »
« Pesme, » murmura Coconas, « je ne connais pas ce nom-là. C'est monsieur de Besme, mon gentilhomme, dit la sentinelle. La prononciation vous trompe, voilà tout. Donnez votre lettre à monsieur, allez, j'en réponds. Ah, messieurs de Besme, s'écria Connasse, je crois bien que je vous connais. Comment donc, avec le plus grand plaisir, voici ma lettre. Excusez mon hésitation, mais on doit hésiter quand on veut être fidèle. Ah, pien, pien, dit de Besme, il n'y a frappe pas soin d'excuse. Ma foi, monsieur, dit la mole en s'approchant à son tour, puisque vous êtes si obligeant, voudriez-vous vous charger de ma lettre, comme vous venez de le faire, de celle de mon compagnon? Comment vous appelez-vous? Le comte Lérac de la Mole. Le comte Lérac de la Mole, oui. Ah, je ne connais pas. Il est tout simple que je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous, monsieur, je suis étranger, et comme le comte de Coconas, j'arrive ce soir de bien loin. Et tout arrivez-vous? De Provence. Avec une lettre? Oui, avec une lettre. Pour Messire des Guises? Ah, non, pour Sa Majesté le roi de Navarre. « Je ne suis pas au roi de Navarre, Mesire, » répondit Besme avec un froid subit. « Je ne puis donc pas me charger de votre lettre. » Et Besme, tournant les talons à la mole, entra dans le Louvre en faisant signe à Coconas de le suivre. Le mole resta seul. Au même moment, par la porte du Louvre, parallèle à celle qui avait donné passage à Besme et Coconas, se sortit une troupe de cavaliers d'une centaine d'hommes. « Ah ah !» dit la sentinelle à son camarade, « c'est de Mouy et c'est Huguenot. Ils sont rayonnants. Le roi leur a promis la mort de l'assassin de l'amiral. Et comme c'est déjà lui qui a tué le père de Mouy, le fils sera d'une pierre deux coups. « Pardon, » dit la mole, s'adressant aux soldats, « vous n'avez pas dit, mon brave, que cet officier était monsieur de Mouy ?»« Oui, dame, mon gentilhomme, et que ceux qui l'accompagnaient étaient des parpaillots, je l'ai dit. » « Merci, » dit la mole, sans paraître remarquer le terme de mépris employé par la sentinelle. « Voilà tout ce que je voulais savoir. » Et se dirigeant aussitôt vers le chef des cavaliers, « Monsieur, » dit-il en abordant, « j'apprends que vous êtes monsieur de Mouy. »« Oui, monsieur, » répondit l'officier avec politesse. « Votre nom, bien connu parmi ceux de la religion, m'enhardit à m'adresser à vous, monsieur, pour vous demander un service. » Lequel, monsieur? Mais d'abord, à qui ai-je l'honneur de parler? Au comte Lérac de la Mole. » Les deux jeunes gens se saluèrent. « Je vous écoute, monsieur, » dit de Mouy. « Monsieur, j'arrive d'Aix, porteur d'une lettre de monsieur Doriac, gouverneur de la Provence. Cette lettre est adressée au roi de Navarre et contient des nouvelles importantes et pressées. Comment puis-je lui remettre cette lettre? Comment puis-je entrer au Louvre? Oh, rien de plus facile que d'entrer au Louvre, monsieur, » répliqua de Mouy. « Seulement, je crains que le roi de Navarre ne soit trop occupé à cette heure pour vous recevoir. Mais n'importe, si vous voulez me suivre, je vous conduirai jusqu'à son appartement. Le reste vous regarde. Ah, mille fois merci. Venez, monsieur, » dit de Mouy. De Mouy descendit de cheval, jeta la bride aux mains de son laquais, s'achemina vers le guichet, se fit reconnaître de la sentinelle, introduisit la mole dans le château et, ouvrant la porte de l'appartement du roi, « Entrez, monsieur, dit-il, et informez-vous. » Et, saluant la mole, il se retira. La mole, demeurée seule, regarda autour de lui. L'antichambre était vide, une des portes intérieures était ouverte. Il fit quelques pas et se trouva dans un couloir. Il frappa et appela sans que personne répondît. Le plus profond silence régnait dans cette partie du Louvre. « Qui donc me parlait, pensa-t-il, de cette étiquette si sévère? On va et on vient dans ce palais comme sur une place publique. » Et il appela encore, mais sans obtenir un meilleur résultat que la première fois. « Allons, marchons devant nous, » pensa-t-il. « Il faudra bien que je finisse par rencontrer quelqu'un. » Et il s'engagea dans un couloir qui allait toujours s'assombrissant. Tout à coup, la porte opposée à celle par laquelle il était arrivé s'ouvrit et deux pages parurent, portant des flambeaux et éclairant une femme d'une taille imposante, d'un maintien majestueux et surtout d'une admirable beauté. La lumière porta en plein sur la mole qui demeura immobile. La femme s'arrêta de son côté, comme la mole s'était arrêtée du sien. « Que voulez-vous, monsieur ? » demanda-t-elle au jeune homme d'une voix qui bruit à ses oreilles comme une musique délicieuse. « Oh, madame, » dit la mole en baissant les yeux, « excusez-moi, je vous prie, je quitte monsieur de Mouy qui a eu l'obligeance de me conduire jusqu'ici et je cherchais le roi de Navarre. « Sa majesté n'est point ici, monsieur, elle est, je crois, chez son beau-frère, mais en son absence ne pourriez-vous dire à la reine... » « Oh, sans doute, madame, reprit la Mole, si quelqu'un daignait me conduire devant elle. Vous y êtes, monsieur.
Comment ? S'écria la Mole.
Je suis la reine de Navarre, dit Marguerite. La Mole fit un mouvement tellement brusque de stupeur et d'effroi que la reine sourit.
Parlez vite, monsieur, car on m'attend chez la reine mère, dit-elle.
Oh, madame, vous êtes si instamment attendue. Permettez-moi de m'éloigner, car il me serait impossible de vous parler en ce moment. Je suis incapable de rassembler deux idées. Votre vue m'a ébloui. Je ne pense plus. J'admire.
Marguerite s'avança, pleine de grâce et de beauté, vers ce jeune homme qui, sans le savoir, venait d'agir en courtisan raffiné.
« Remettez-vous, monsieur, dit-elle, j'attendrai, et l'on m'attendra.
« Oh, pardonnez-moi, madame, si je n'ai point salué d'abord votre majesté, avec tout le respect qu'elle est en droit d'attendre d'un de ses plus humbles serviteurs, mais... »
« Mais, continua Marguerite, vous m'aviez prise pour une de mes femmes.
Oh, »« Non, madame, mais pour l'ombre de la belle Diane de Poitiers, on m'a dit qu'elle revenait au Louvre. »«
Allons, monsieur, dit Marguerite, je ne m'inquiète plus de vous, et vous ferez fortune à la cour. »
Vous aviez une lettre pour le roi, disiez-vous.
C'était fort inutile, mais peu importe où est-elle, je la lui remettrai. Seulement, hâtez-vous, je vous prie.
En un clin d'œil, la Mole écarta les écuyettes de son pourpoint et tira de sa poitrine une lettre enfermée dans une enveloppe de soie.
Marguerite prit la lettre et regarda l'écriture.
N'êtes-vous pas monsieur de la Mole, dit-elle.
Oui, madame.
Oh, mon Dieu, aurais-je le bonheur que mon nom fût connu de votre majesté?
Je l'ai entendu prononcer par le roi, mon mari, et par mon frère, le duc d'Alençon. Je sais que vous êtes attendu. »
Et elle glissa dans son corsage, tout raide de broderies et de diamants, cette lettre qui sortait du pourpoint du jeune homme et qui était encore tiède de la chaleur de sa poitrine. La Mole suivait avidement des yeux chaque mouvement de Marguerite.
« Maintenant, monsieur, dit-elle, descendez dans la galerie au-dessous et attendez jusqu'à ce qu'il vienne quelqu'un de la part du roi de Navarre ou du duc d'Alençon. Un de mes pages va vous y conduire. »
À ces mots, Marguerite continua son chemin.
La Mole se rangea contre la muraille, mais le passage était si étroit et la vertu gardien de la reine si large que sa robe de soie effleura l'habit du jeune homme, tandis qu'un parfum pénétrant s'épandait là où elle avait passé. La Mole frissonna de tout son corps et, sentant qu'il allait tomber, chercha un appui contre le mur.
« Venez-vous, monsieur ? » dit le page chargé de conduire la Mole dans la galerie inférieure.
« Oui, oui !» s'écria la Mole enivrée, car, comme le jeune homme lui indiquait le chemin par lequel venait de s'éloigner Marguerite, il espérait, en se hâtant, la revoir encore.
En effet, en arrivant en haut de l'escalier, il aperçut à l'étage inférieur, et soit hasard, soit que le bruit de ses pas fût arrivé jusqu'à elle, Marguerite ayant relevé la tête, il put la voir encore une fois.
« Oh, dit-il en suivant le page, ce n'est pas une mortelle, c'est une déesse, et comme dit Virgilius Maro, et vera incessu patuit dea. »
Le page précéda la Mole, descendit un étage, ouvrit une première porte, puis une seconde, et s'arrêtant sur le seuil, « Voici l'endroit où vous devez attendre, lui dit-il. » La Mole entra dans la galerie, dont la porte se referma derrière lui. La galerie était vide, à l'exception d'un gentilhomme qui se promenait et qui, de son côté, paraissait attendre. Déjà, le soir commençait à faire tomber de larges ombres du haut des voûtes, et, quoique les deux hommes fussent à peine à 20 pas l'un de l'autre, ils ne pouvaient distinguer leurs visages. La Mole s'approcha.
« Dieu me pardonne, murmura-t-il quand il ne fut plus qu'à quelques pas du second gentilhomme, c'est monsieur le comte de Coconas que je retrouve ici. »
Au bruit de ses pas, le piémontais s'était déjà retourné, et le regardait avec le même étonnement qu'il en était regardé.
« Mordi ! » s'écria-t-il, « c'est monsieur de la Mole, où le diable m'emporte !
Ouf, que fais-je donc là, je jure chez le roi !
Mais bah, il paraît que le roi jure bien autrement encore que moi et jusque dans les églises.
Eh bien, nous voici donc au Louvre ?
Comme vous voyez, monsieur de Besme vous introduit ?
Oui, c'est un charmant Allemand que ce monsieur de Besme, et vous, qui vous a servi de guide ?
Monsieur de Mouy, je vous dirais bien que les Huguenots n'étaient pas trop mal en cour non plus.
Et avez-vous rencontré monsieur de Guise ?
Non, pas encore. Et vous, avez-vous obtenu votre audience du roi de Navarre ?
Non, mais ça ne peut tarder. On m'a conduit ici, on m'a fait attendre.
Vous verrez qu'il s'agit de quelques grands soupers et que nous serons côte à côte au festin.
Ah, quel singulier hasard, en vérité, depuis 2 heures le sort nous marie.
Mais qu'avez-vous ? Vous semblez préoccupé. Moi, dis-je-moi la molle en tressaillant, car en effet, il demeurait encore tout ébloui de la vision qui lui était apparue. Non, mais le lieu où nous nous trouvons fait naître en mon esprit une foule de réflexions. Et philosophique, n'est-ce pas? C'est comme moi. Quand vous êtes entré, justement, toutes les recommandations de mon précepteur me revenaient à l'esprit. Monsieur le comte, connaissez-vous Plutarque? Comment donc? Dit la molle en souriant. C'est un de mes auteurs favoris. Eh bien, continua Coconas gravement, ce grand homme ne me paraît pas s'être abusé quand il compare les dons de la nature à des fleurs brillantes mais éphémères, tandis qu'il regarde la vertu comme une petite plante balsamique d'un impérissable parfum et d'une efficacité souveraine pour la guérison des blessures. Est-ce que vous savez le grec, monsieur de Coconas? Dit la molle en regardant fixement son interlocuteur. Non pas, mais mon percepteur le savait, et il m'a fort recommandé, lorsque je serai à la cour, de discourir sur la vertu. Cela, dit-il, a fort bon air. Aussi, je suis cuirassé sur ce sujet, je vous en avertis. À propos, avez-vous faim? Non. Il me semble pourtant que vous teniez à la volaille embrochée de la belle étoile. Moi, je meurs d'inanition. Eh bien, monsieur de Coconas, voici une belle occasion d'utiliser vos arguments sur la vertu et de prouver votre admiration pour Plutarque, car ce grand écrivain a dit quelque part « Il est bon d'exercer l'âme à la douleur et l'estomac à la faim. Preponesti tenmen pusien oduni tonen gastera se moisquen. » Ah ça, vous savez donc le grec? S'écria Coconas stupéfait. « Eh, ma foi, oui, répondit la molle, mon précepteur me l'a appris, moi. » « Mordi, comte, votre fortune est assurée en ce cas. Vous ferez des vers avec le roi Charles IX et vous parlerez grec avec la reine Marguerite. »« Sans compter, ajouta la molle en riant, que je pourrais encore parler gascon avec le roi de Navarre. » En ce moment, l'issue de la galerie qui aboutissait chez le roi s'ouvrit. Un pas retentit et on vit dans l'obscurité une ombre s'approcher. Cette ombre devint un corps, ce corps était celui de monsieur de Besme. Il regarda les deux jeunes gens sous le nez afin de reconnaître le sien et fit signe à Coconas de le suivre. Coconas salua de la main la molle. Tebès me conduisit Coconas à l'extrémité de la galerie, ouvrit une porte et se trouva avec lui sur la première marche d'un escalier. Arrivé là, il s'arrêta et regardant tout autour de lui, puis en haut, puis en bas, « Mosir de Coconas, dit-il, où demeurez-vous ? À l'auberge de la Belle Étoile, rue de l'Arbre Sec. » Pon, pon, être à de bas d'Isi, rendez-vous fit à votre hôtel, et cette nuit, il regarda à nouveau autour de lui, eh bien, cette nuit, demanda Coconas, eh bien, cette nuit, revenez ici avec un gros planche à votre jabot, l'imodibas, il sera guise, chute, bouche close, et à quelle heure dois-je venir, quand vous entendrez le doguzin? « Comment ça, le doguzin ?» demanda Coconas. « Oui, le doguzin, poum, poum. Ah, le tocsin. Oui, c'est cela que je disais. Eh bien, on y sera, » dit Coconas. Pendant ce temps, une porte de la galerie correspondant aux appartements du roi de Navarre s'ouvrit, et un page s'avança vers monsieur de la Mole. « C'est bien vous qui êtes le comte de la Mole, » dit-il. « C'est moi-même. Où demeurez-vous ?»« Rue de l'Arbre Sec, à la Belle Étoile. » Bon, c'est à la porte du Louvre. Écoutez, Sa Majesté vous fait dire qu'elle ne peut vous recevoir en ce moment. Peut-être cette nuit vous enverra-t-elle chercher. En tout cas, si demain matin vous n'aviez pas reçu de ses nouvelles, venez au Louvre. Mais si la sentinelle me refuse la porte. Ah, c'est juste, le mot de passe est Navarre. Dites ce mot et toutes les portes s'ouvriront devant vous. À propos, et Coconas, se dit la molle à lui-même quand il se trouva hors du palais. Oh, il s'est resté à souper avec le duc de Guise. Mais en rentrant chez maître la Hurière, la première figure qu'il aperçut fut celle de Coconas attablé devant une gigantesque omelette au lard. Oh, s'écria Coconas en riant aux éclats, il paraît que vous n'avez pas plus dîné chez le roi de Navarre que je n'ai soupé chez monsieur de Guise. Eh, ma foi, non. Et la faim vous est-elle venue? Je crois que oui. « Malgré Plutarque, monsieur le comte, dit en riant la molle, Plutarque dit dans un autre endroit qu'il faut que celui qui a partage avec celui qui n'a pas. Voulez-vous, pour l'amour de Plutarque, partager votre omelette avec moi? Nous causerons de la vertu en mangeant. » « Oh, ma foi, non, dit Coconas, c'est bon quand on est au Louvre qu'on craint d'être écouté et qu'on a l'estomac vide. Mettez-vous là et soupons. » « Allons, je crois que, décidément, le sort nous a fait inséparables. Couchez-vous ici ?»« Je n'en sais rien. »« Ni moi non plus. »« En tout cas, je sais bien où je passerai la nuit, moi. Où cela ? Ben, vous vous la passerez vous-même, c'est immanquable. » Et tous deux se mirent à rire en faisant de leur mieux honneur à l'omelette de Maître Lahurière.